Vous êtes à l'émission Paysages littéraires, en compagnie de Louis-Normand Hébert, à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM. J'ai entre les mains un livre que j'aimerais partager avec vous, un livre que j'ai sans doute lu, un roman, il y a très longtemps, c'est en le relisant, surtout vers la fin du volume, que j'ai pu comprendre que je pouvais un peu connaître le dénouement du roman. C'est un livre magnifiquement écrit. C'est un livre du terroir que sans doute certains connaissent. Le livre de Louis Aymon, dont le titre du roman est « Maria Chapdelaine ». Il y a très longtemps, au début des années 80, je me suis acheté une copie illustrée de ce livre, un tirage limité, illustré par des illustrations du peintre Clarence Gagnon. Et c'est très rare que j'ai l'occasion de lire un roman et d'avoir l'œil capté par une image et de magnifiques illustrations qui représentent une portion, une partie visuelle du roman. Ça nous donne un peu l'idée, c'est comme de petits tableaux, c'est une sorte de petit cinéma à travers un livre. Donc, je vais commencer maintenant, dans ce premier segment de l'émission. Je vais vous lire un peu la postface du livre, parce que j'en ai deux copies. J'en ai une copie qui est format poche, évidemment, puis comme je disais plus tôt, une copie à couverture rigide. Je sais aujourd'hui que le Québec, ce n'est plus ça du tout. Et je comprends que des femmes et des hommes qui vivent dans les immeubles ultramodernes de Montréal soient agacés à l'idée qu'un Européen puisse encore imaginer leur pays à travers le portrait qu'en a brossé Louis Aymon. Et pourtant, Maria Chapdelaine demeure. Éternellement vivante, elle continue d'imposer aux rêveurs de mon espèce l'image fascinante d'un continent peuplé d'êtres solides et sains, de la race des pionniers, des vrais, ceux qui, en quelques générations et en dépit du mépris qu'ont pu avoir pour eux certaines gens du vieux monde, ont su pétrir un passé qui constitue le meilleur levain qu'un peuple jeune puisse espérer pour son avenir. Donc voilà, c'était la postface par Bernard Clavel. C'est un livre qui a un roman qui a été écrit en 1916. Le roman débute ainsi. Ite Missaes, la porte de l'église de Péribonka s'ouvrit et les hommes commencèrent à sortir. Ite Missaes signifie aller porter la mission. Ou c'est littéralement, il y a aussi un autre sens peut-être plus religieux qui est aller, la messe est dite. Donc j'entame ce premier segment de l'émission en vous lisant un passage du roman de Louis Aymon, dont le titre est « Maria Chapdelaine ». Le jour de l'an n'amena aucun visiteur. Vers le soir, la mère Chapdelaine, un peu déçue, cacha sa mélancolie sous la guise d'une gaieté exagérée. Quand même, il ne viendrait personne, dit-elle, ce n'est pas une raison pour nous laisser pâtir. Nous allons faire de la tire. Les enfants poussèrent des cris de joie et suivirent des yeux les préparatifs avec un intérêt passionné. Du sirop de sucre et de la cassonade furent mélangés et mis à cuire. Quand la cuisson fut suffisamment avancée, Télesphore rapporta du dehors un grand plat d'étain rempli de belle neige blanche. Tout le monde se rassembla autour de la table pendant que la mère Chapdelaine laissait tomber le sirop en ébullition, goutte à goutte, sur la neige, où il se figeait à mesure en éclaboussures sucrées, délicieusement froides. Chacun fut servi à son tour, les grandes personnes imitant plaisamment l'avidité gourmande des petits, mais la distribution fut arrêtée bientôt, sagement, afin de réserver un bon accueil à la vraie tire, dont la confection ne faisait que commencer. Car il fallait parachever la cuisson et, une fois la pâte prête, l'étirer longuement pendant qu'elle durcissait. Les fortes mains grasses de la mère Chapdelaine manièrent 5 minutes durant l'écheveau succulent qu'elle allongeait et repliait sans cesse. Peu à peu, leur mouvement se fit plus lent, puis, une dernière fois, la pâte fut étirée à la grosseur du doigt et coupée avec des ciseaux, à grand effort, car elle était déjà dure. La tire était faite. Les enfants en mâchaient déjà les premiers morceaux quand des coups furent frappés à la porte. « Eutrope Gagnon, » fit le père. « Je me disais aussi que ce serait bien rare s'il ne venait pas veiller avec nous ce soir. » C'était Eutrope Gagnon, en effet. Il entra, souhaita le bonsoir à tout le monde, posa son casque de laine sur la table. Maria le regardait, une rougeur aux joues. La coutume veut que le jour de l'an, les garçons embrassent les filles. Et Maria savait fort bien que Trope, malgré sa timidité, allait se prévaloir de cet usage. Elle restait immobile près de la table et attendait, sans ennui, mais pensant à cet autre baiser qu'elle aurait aimé recevoir. Il faut peut-être que je vous le dise maintenant. Maria Chapdelaine, dont tout le roman tourne autour de la vie dure des gens de l'époque, mais il y a trois prétendants, trois hommes pour qui ils ont un intérêt avoué. Je vous en dis pas plus. Pourtant, le jeune homme prit la chaise qu'on lui offrait et s'assit, les yeux à terre. C'est toi toute la visite que nous avons eue aujourd'hui, dit le père Chapdelaine. Mais je pense bien que tu n'as vu personne non plus. J'étais bien certain que tu viendrais veiller. Comme de raison, je n'aurais pas laissé passer le jour de l'an sans venir. Mais en plus de ça, j'avais des nouvelles que je voulais vous répéter. Ah ? Sous les regards d'interrogation, convergeant sur lui, il continuait à baisser les yeux. À voir ta face, je calcule que ce sont des nouvelles de malchance. Oui. La mère Chapdelaine se leva à moitié avec un geste de crainte. Ce seraient-ils les garçons? Non, madame Chapdelaine. Esdras et Dabé sont bien si le bon Dieu le veut. Les nouvelles que je parle ne viennent pas de ce bord-là. Ce n'est pas un parent à vous, mais un garçon que vous connaissez. Il hésita un instant et prononça le nom à voix basse. François Paradis. Son regard se leva un instant sur Maria pour se détourner aussitôt, mais elle ne remarqua même pas ce coup d'œil chargé d'honnête sympathie. Un grand silence s'était appesanti non seulement dans la maison, mais sur l'univers entier. Toutes les créatures vivantes et toutes les choses restaient muettes et attendaient anxieusement cette nouvelle qui était d'une si terrible importance, puisqu'elle touchait le seul homme au monde qui compta vraiment. Voilà comment ça s'est passé. Vous avez peut-être eu connaissance qu'il était foreman dans un chantier en haut de la Tuque, sur la rivière Vermillon. Quand le milieu de décembre est venu, il a dit tout à coup au boss qu'il allait partir pour venir passer les fêtes au lac Saint-Jean. Il cite. Le boss ne voulait pas, comme de raison. Quand les hommes se mettent à prendre des congés de 10 à 15 jours, en plein milieu de l'hiver, autant vaudrait casser le chantier de suite. Il ne voulait pas et il ne le lui a bien dit. Mais vous connaissez François, c'est un garçon malaisé à commander. Quand il avait une chose en tête, il a répondu qu'il avait dans son cœur d'aller au Grand Lac pour les fêtes et qu'il irait. Nous allons nous arrêter ici quelques instants, le temps de faire une pause, et on vous revient dans le deuxième segment du roman Maria Chapdelaine de l'auteur Louis Aymon. Thank you. Rebonjour et nous repartons pour le deuxième segment de l'émission Paysage littéraire. Alors, le boss l'a laissé faire, par peur de le perdre, vu que c'était un homme capable hors de l'ordinaire et accoutumé dans le bois. Il parlait avec une facilité singulière, lentement, mais sans chercher ses mots, comme s'il avait tout préparé d'avance. Maria songea tout à coup au milieu de son angoisse. François a voulu venir ici pour les fêtes, me voir. Et une joie fugitive effleura son cœur comme une hirondelle rase l'eau. Le chantier n'était pas bien loin dans le bois, seulement à 2 jours de voyage du transcontinental qui descend sur Latuc, mais ça donnait qu'il y avait eu un accident à la traque qui n'était pas encore réparé et les chars ne passaient pas. J'ai eu connaissance de tout ça par Johnny Niquette de Saint-Henri qui est arrivé de Latuc il y a 2 jours passés. Oui? Quand François Paradis a su qu'il ne pouvait pas prendre les chars, il a fait une risée et dit comme ça que tant qu'à marcher, il marcherait tout le chemin et qu'il allait gagner le Grand Lac en suivant la rivière Croche d'abord et puis la rivière Ouatchouan qui tombe près de Roberval. C'est correct, dit le père Chapdelaine. Ça peut se faire. J'ai passé par là. Pas dans cette saison ici, monsieur Chapdelaine. Sûrement pas dans cette saison ici. Tout le monde là-bas a dit à François que ça n'avait pas de bon sens de vouloir faire ce voyage-là en plein hiver, au temps des fêtes, avec le froid qu'il faisait, peut-être bien 4 pieds de neige, dans le bois. Et seul. Mais il n'a fait que rire d'eux et leur dire qu'il était accoutumé dans le bois, qu'un peu de misère ne lui faisait pas peur, parce qu'il était décidé d'aller en haut du lac pour les fêtes, et que là, où les sauvages passaient, lui passerait. Bien. Seulement, vous connaissez bien ça, M. Chapdelaine, quand les sauvages font ce voyage-là, c'est plusieurs ensemble, et avec des chiens. François est parti seul, à raquette, avec ses couvertes et des provisions sur une petite traîne. Personne n'avait dit un mot pour le hâter ou l'interrompre. On l'écoutait comme on écoute quelqu'un qui conte une histoire, quand le dénouement approche, visible, mais inconnu, pareil à un homme qui vient en se cachant la figure. Vous vous rappelez bien le temps qu'il a fait la semaine avant la Noël. Il est tombé de la neige en masse, et puis le Nouroi a pris. Le Nouroi, c'est le vent du nord. Ça s'est adonné que pendant la tempête, François Paradis était dans les Grands Brûlés, où là, la petite neige poudre terriblement et fait des falaises. Dans des places comme celle-là, même un homme capable n'a pas grand-chose, grand-chance, quand il fait ben frette et que la tempête dure. Et si vous vous rappelez, le Nouroi a sifflé 3 jours de suite, dur, à vous couper la face. Oui, eh bien, le monologue qu'il avait préparé n'allait pas plus loin, sans doute, ou bien il hésitait à prononcer les paroles nécessaires, car il ne répondit qu'après quelques instants de silence à voix basse. Il s'est écarté. Des gens qui ont passé toute leur vie à la lisière des bois canadiens savent ce que cela veut dire. Les garçons téméraires que la malchance atteint dans la forêt et qui se trouvent écartés, perdus, ne reviennent guère. Parfois, une expédition trouve et rapporte leur corps au printemps, après la fonte des neiges. Le mot lui-même, au pays de Québec, et surtout dans les régions lointaines du Nord, a pris un sens sinistre et singulier. Où se révèle le danger qu'il y a à perdre le sens de l'orientation, seulement un jour, dans ces bois, sans limite. Il s'est écarté. La tempête l'a surpris dans les brûlés et il s'est arrêté un jour, on sait ça à cause que les sauvages ont trouvé l'abri en branches de sapin qu'il s'était fait et ils ont vu aussi ses pistes. Il est reparti parce qu'il n'avait guère de provisions et qu'il avait hâte d'arriver, je pense. Mais le temps était encore méchant. La neige tombait, le nourois soufflait dur et probablement qu'il ne pouvait pas voir le soleil ni marquer son chemin. Car les sauvages ont dit que ces pistes s'éloignaient de la rivière Croche qu'il avait suivie et s'en allaient drette vers le nord. Personne ne parlait encore, ni les deux hommes qui écoutaient en hochant parfois la tête, comprenant tous les détails de la tragédie, de la tragique aventure, ni la mère Chapdelaine, dont les mains s'étaient jointes sur ses genoux comme pour une imploraison tardive, ni Maria. Quand on a su ça, des hommes d'Ouatchouan sont partis après que le temps s'était adouci un peu. Mais la neige avait couvert toutes les pistes et ils sont revenus en disant qu'ils n'avaient rien vu. Voilà 3 jours passés. Il s'est écarté. Tous se redressèrent avec des soupirs. L'histoire était terminée et en vérité, il ne restait plus rien à dire. Le sort de François Paradis était aussi lugubrement certain que s'il avait été enterré dans le cimetière de Saint-Michel de Mistassini au milieu des champs avec la bénédiction des prêtres. Un lourd silence pesa sur la maisonnée. Le père Chapdelaine se pencha en avant, les coudes sur les genoux, cognant machinalement une de ses mains fermées contre l'autre avec une moue grave. Ça montre que nous ne sommes que des petits enfants dans la main du bon Dieu, fit-il. François était un des meilleurs hommes de Paris-Cite pour vivre dans le bois et trouva son chemin, Des étrangers l'engageaient comme guide et les ramenaient toujours chez eux sans malchance. Et voilà qu'il s'est écarté. Nous ne sommes que des petits-enfants. Il y en a qui se croient pas mal forts et qui pensent qu'ils peuvent se passer de l'aide du bon Dieu quand ils sont dans leur maison ou sur leur terre. Mais dans le bois, il secoua la tête et répéta encore d'une voix grave, « Nous ne sommes que de petits-enfants. » C'était un bonhomme, dit Eutrope Gagnon. Un vrai bonhomme, fort et vaillant et sans malice, comme de raison. Je ne veux pas dire que le bon Dieu avait des raisons pour le faire mourir, lui plutôt qu'un autre. C'était un bon garçon, un travaillant, je l'aimais bien. Mais ça vous montre. Personne n'a jamais rien eu contre lui, reprit Eutrope, avec une sorte de généreux entêtement. C'était un homme rare pour l'ouvrage, pas peureux de rien et serviable avec ça. Tous ceux qui l'ont connu avaient de l'amitié pour lui. C'était un homme dépareillé. Il leva les yeux sur Maria et répéta avec force, « C'était un bonhomme. Un homme dépareillé. Quand nous étions à Mistassini, dit la mère Chapdelaine, voilà ça de ça 7 ans, ce n'était encore qu'une jeunesse, mais fort et adroit pas mal, déjà aussi grand comme il est là, il veut dire comme il était, l'été dernier, quand il est venu ici. C'était difficile de ne pas l'aimer. Ils regardaient droit devant eux en parlant, et cependant tout ce qu'ils disaient semblait s'adresser à Maria, comme si son secret d'amour avait été naïvement visible. Mais elle ne dit rien ni ne bougea, les yeux fixés sur la vitre de la petite fenêtre que le gel rendait pourtant opaque contre un mur. Eutrope Gagnon s'en alla bientôt. Les Chapdelaine, restés seuls, furent longtemps sans parler. Enfin, le père dit d'une voix hésitante, « François Paradis n'avait quasiment pas de famille. Alors, comme nous avions tous de l'amitié pour lui, on pourrait peut-être faire dire une messe ou deux. » Et Laura, sûrement, 3 grands messes avec chant. Et quand les garçons reviendront du bois, en bonne santé, s'il plaît au bon Dieu, 3 autres pour le repos de son âme, pauvre garçon. Et tous les dimanches, nous dirons un chapelet pour lui. Maria sentait bien que c'était pour elle qu'il disait cela, parce qu'elles avaient deviné son chagrin et cherchaient à l'adoucir. Mais elle ne pouvait parler, ni pour louer le corps, ni pour se plaindre. Une main s'était glissée dans sa gorge, l'étouffant, dès que le dénouement du récit tragique était devenu clair pour elle. Et maintenant, cette main avait pénétré jusqu'en sa poitrine et lui serrait durement le cœur. Les élancements et la douleur déchirante viendraient plus tard, peut-être, mais pour le moment, ce n'était encore que cela. La poigne cruelle de 5 doigts fermés sur son cœur. Voilà, c'était le 2e segment de l'émission Paysages littéraires. Je vous ai lu des passages du roman de Maria Chapdelaine, de l'auteur Louis Aymon. Je vais peut-être vous inciter à lire la suite parce que Maria Chapdelaine, elle avait des prétendants. Il y en avait un qui travaillait aux États-Unis, mais qui revenait toujours au Québec et qui voulait l'amener vers les États-Unis pour vivre, lui faisant croire à des histoires, des mirages de la vie. Il y avait François Paradis, comme vous avez pu voir, qui était l'homme pour lequel elle était prête, avec lequel elle était prête à vivre. Et il y avait Eutrope Gagnon qui lui a annoncé la nouvelle. Si vous avez l'occasion de lire le roman, vous verrez bien quel sera le dénouement pour la vie de cette jeune femme, Maria Chapdelaine, roman qui a été écrit au début du 20e siècle, autour des années 1910. Merci, c'était Paysages littéraires à l'antenne de Radio Victoria 107,9 FM, Victoria.